on a Marie-Ève en studio avec nous. Allô Marie-Ève. Excuse-moi, j'ai oublié d'allumer ton micro. Salut.
Salut, salut.
Donc, la splendide Marie-Ève des Apatrides Anonymes qui vient nous parler cette semaine du profilage racial en technique policière. Déjà le thème, ça fait trembler un peu. Et du procès de Curam Cher, qui est le premier du projet Samosa. Parle-nous-en plus, Marie-Ève.
Oui, effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2010, à l'été 2010, en fait, à la fin août, il y avait eu une arrestation assez médiatisée et musclée de trois hommes par la GRC à London et à Ottawa, en Ontario, dans le cadre d'une enquête qui avait débuté en 2009 et qui portait le charmant et peu subtil nom de projet Samosa. Non, c'est pas raciste du tout comme nom de projet. Ce sont donc, il y a trois hommes, comme je le disais, qui ont été arrêtés et qui étaient accusés de complot pour commettre ou faciliter un acte terroriste. Donc, on n'avait à peu près pas entendu parler de ce qui était arrivé depuis les arrestations en 2010, mais là, le 10 février dernier, s'est ouvert le premier des trois procès à la Cour supérieure de l'Ontario. C'est celui, donc, de Curam Siadshir, qui est un médecin de London, âgé de 31 ans, diplômé de McGill, qui, c'était un peu bizarre, parce que quand il y avait eu les trois arrestations, probablement que Shear avait été le plus célèbre parce qu'il avait déjà auditionné pour l'émission Canadian Idol. Tout le monde avait comme parlé de ça plutôt que le fond de l'affaire. Alors, M. Shear, évidemment, il est en liberté conditionnelle depuis son arrestation en attente de son procès. Donc, comme je le disais, le procès a commencé le 10 février dernier. Il plaide non coupable. Ce qu'on a appris, en fait, au cours des procédures depuis l'arrestation, ben comme dans tout bon procès en vertu de la loi antiterroriste, ça suit la logique habituelle, c'est-à-dire qu'on assiste à une série de violations des droits des accusés. Par exemple, on sait que, comme dans les autres procès, plusieurs des documents qui ont servi, qui servaient comme preuve, en fait, dans le dossier de M. Shear, sont gardés secrets et donc nuisent à une défense pleine et entière. Dans son cas précis, dans son cas à lui, on a appris que la plupart des informations, en fait, venaient des services secrets britanniques et américains et qu'il y avait eu l'utilisation et que les services secrets avaient utilisé des undercover pour incriminer les trois hommes qui ont été arrêtés en 2010. On a appris aussi que une centaine d'enquêteurs de la GRC avaient travaillé sur cette enquête-là, que la police avait truffé la résidence non seulement de M. Shear, mais également des deux autres co-accusés. Donc, avaient truffé la résidence de Micro, avaient également mis leur téléphone sous écoute. En fait, la majorité de la preuve provient de transcriptions d'enregistrement, soit de conversations qui avaient lieu chez les accusés ou d'enregistrement de conversations téléphoniques. Puis d'ailleurs, dans le procès de M. Shear, ses avocats contestent en fait la validité de ces transcriptions d'enregistrement parce que ils ont relevé en fait entre 10 et 20 minimum, en tout cas sur les enregistrements auxquels les avocats ont eu accès, ils ont relevé une douzaine d'erreurs de sens ou de mauvaises attributions, c'est-à-dire que des propos, admettons, portés comme étant les propos de M. Shear, en fait, c'était pas lui qui avait dit ça, ou des erreurs de sens. Par exemple, et ça, c'est non la moindre, une transcription avait été traduite ainsi. J'ouvre les guillemets. Je pense que la première étape, c'est de construire une bombe. Et finalement, après réévaluation au niveau de la traduction et tout ça, ce qu'il avait vraiment été dit, c'est « Je pense que c'est le temps de, pour nous de partir. » Donc, disons que ça peut semer un léger doute sur la fiabilité, finalement, du restant de la preuve qui repose, justement, sur ces enregistrements qui sont traduits. D'ailleurs, pendant le procès de M. Scheer, le traducteur, son professionnalisme et ses compétences ont été beaucoup remis en question parce que les enregistrements pouvaient avoir, les conversations pouvaient avoir lieu soit en français, en anglais, en ourdou, en arabe, en plusieurs langues, donc. Et en fait, le traducteur qui a fait le travail pour la plupart, qui a traduit la plupart des enregistrements, n'est même pas un traducteur officiel, c'est simplement un agent de la GRC qui, dont la langue première, ça donne à être l'arabe. Donc ça, c'est une grosse partie de la preuve contre M. G. Puis l'autre grosse partie, c'est une rencontre qui aurait eu lieu chez un des deux autres accusés et où il aurait été question là, d'attentats et blabla. Mais encore une fois, ce que les avocats de M. Scheer soutiennent, c'est que, en fait, quand on écoute les enregistrements de cette soirée-là, tout est à la blague. Les trois hommes rient, font des blagues, oui, peut-être un peu de goût douteux, mais donc, tout est au niveau de la blague. Et en plus, M. Scheer était même pas au courant de quel allait être le sujet de cette rencontre-là. Donc, il y a même le juge dans le procès qui a remis en question la validité également des arguments amenés par la couronne dans le procès de M. Scheer. Donc, aujourd'hui devait avoir les audiences reprenaient aujourd'hui même et ça devait être les plaidoiries finales et de la couronne et de la défense. Mais j'ai pas réussi comme la journée. Était pas tout à fait terminé. J'ai pas pu avoir les informations sur comment ça s'est passé aujourd'hui. Donc, on devrait avoir des informations bientôt. Ça, je vous tiendrai au courant. Mais donc, il va y avoir également les deux autres co-accusés de M. Scheer qui devraient subir leur procès sous peu. Et quand même, il faut savoir que si le juge déclare non coupable M. Scheer, ça va être la première fois qu'un accusé de terrorisme évite une condamnation sous la nouvelle loi antiterroriste. Donc, c'est pas rien. Ça peut être vraiment une cause qui peut servir pour les causes à venir, qui peut servir de jurisprudence. Donc, voilà. Alors, je vous tiendrai au courant de ce dossier qui traîne, en fait, depuis 2010. Puis, ben comme tu le disais, mon prochain sujet va être sur le profilage racial en technique policière. Mais juste avant, je voulais vous faire écouter une pièce d'un groupe qui était en concert hier à Montréal, c'est le groupe Sierra Leone Refugee All Stars, qui a une histoire absolument abracadabrante. C'est un groupe, en fait, qui s'est formé, qui vient de la Sierra Leone, mais comme vous le savez, la Sierra Leone a vécu une période de guerre assez intense pendant plusieurs années, et donc il y a eu des flots de réfugiés dans les pays limitrophes, dont le pays où se sont retrouvés les membres de Sierra Refugee All-Stars, c'est-à-dire en Guinée. Et donc, ce groupe-là s'est formé dans un camp de réfugiés en Guinée. Et en 2006, leur rêve est devenu réalité, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré leur premier album. Et là, ils en sont à leur quatrième, qui viennent de lancer en mars. Donc, ils sont en tournée pour avec cet album-là, ce nouvel album qui s'intitule Libation. Et donc, je vous invite à écouter cette pièce particulièrement inspirante qui s'appelle Rich But Poor. Rich can't say. Inspirant, n'est-ce pas?
C'est vraiment bon.
Donc, c'était les Sierra Leone Refugee All-Stars qui étaient en concert hier à Montréal au cabaret du Myland pour leur nouvel album Libation qu'ils viennent de lancer là, en mars dernier. Leur quatrième album qui célèbre en fait leurs 10 ans d'existence, leurs 10 ans depuis leur premier album. Mm. Fait qu'on leur en souhaite encore 10 et 20 ans et plus. Donc, ce qui m'amène à mon prochain sujet... on le sait, hein, la démonstration que les policiers du SPVM font du profilage racial n'est plus à faire. Le SPVM, de son côté, se défend en disant que cette pratique-là, évidemment, n'est pas du tout admise dans ses rangs, qu'il faut agir à la source, c'est-à-dire dans le cadre de la formation des futurs policiers et policières. Eh bien... Un blogueur du Journal de Montréal, Stéphane Barthomet, qui est lui-même un ancien policier, donc quand même qu'on pourrait pas dire qu'il a un préjugé défavorable envers la police dès le départ, a mis la main sur un document utilisé dans le cours de criminologie et travail policier qui est donné dans le cadre de la formation en technique policière au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Et le document en question est intitulé « La race et les groupes ethniques ». Et a un contenu, je dirais, plutôt troublant. Par exemple, parce que dans ce document-là, on y trouve en fait les types d'infractions commises par, entre guillemets, les Noirs, les Autochtones et les autres groupes d'immigrants. De un, c'est parce que les Autochtones, c'est comme pas des immigrants, oui, c'est je veux dire, c'est comme plutôt tout le monde ici qui sont des immigrants, sauf les Autochtones. Et pas plus que les Noirs, d'ailleurs, ne sont nécessairement des immigrants. Je veux dire, il y a des immigrants de plusieurs générations qui sont nés ici. En tout cas, donc, évidemment, ça commence bien. On met tout le monde dans le même panier. Et pour vous dire un peu en quoi consiste ça, et ça c'est textuellement pris de ce document, je continue d'ouvrir les guillemets, certaines origines ethniques privilégieraient certains types d'infractions plutôt que d'autres. Comme par exemple, les Noirs commettent plus de crimes que les Blancs et ont une criminalité de violence plus marquée, entre parenthèses, meurtre, vol avec violence, voies de fait, agression sexuelle. Chez les Blancs, il s'agit plus d'une criminalité comme usage de faux, conduite en état d'ivresse, introduction par infraction, alors que chez les Italiens, c'est plutôt la mafia. Et chez les Asiatiques, Ce sont les triades, entre parenthèses, le crime organisé. Les Irlandais, entre parenthèses, le terrorisme, pression politique par rapport à la Grande-Bretagne. Et les Chinois, ce sont les infanticides à cause d'une politique gouvernementale.
OK.
C'est complètement surréel. Et je poursuis. Les minorités ethniques ont tendance à se regrouper pour posséder un certain pouvoir. Par exemple, quartier de la Petite Italie à Montréal, quartier Parc Extension, quartier chinois. Fermez les guillemets.
Ça, c'est un plan de cours.
C'est un plan de cours qui est donné en criminologie pour les étudiants et étudiantes de première année en technique policière au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est vraiment très, très charmant. Non seulement c'est du profilage, mais je veux dire, c'est du racisme pur et simple. En plus, si on, parce qu'on peut en ajouter, la plupart des infos qui sont fournies dans ce document-là proviennent de deux ouvrages d'auteurs québécois qui s'intitulent... Un des deux s'intitule « Criminologie générale » et l'autre, c'est « Facteurs criminogènes et théorie de la délinquance ». Donc, comme je le dis, c'est deux auteurs québécois. Mais par contre, la plupart des informations de ce livre-là concernent les États-Unis et, en plus, elles proviennent du FBI et datent de, attachez votre tuc, de 1956. On est en 2014 au Québec. Je sais pas. En tout cas, il me semble que... problème.
Moi, j'ai arrêté quand t'as dit que les Autochtones, c'était des immigrants, là.
Donc, on peut pas s'empêcher de se demander combien de jeunes policiers, policières sortant du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue dans quelques années iront enfiler leur uniforme pour patrouiller en ayant encore à l'esprit le fait que, j'ouvre les guillemets, les Noirs commettent plus de crimes que les Blancs et ont une criminalité de violence plus marquée. Et ce, statistique de 1956 à l'appui.
Wow! Hey, je suis contente de notre
et dire que, parce qu'on parlait d'élection tout à l'heure, et dire que ça se pourrait qu'on se ramasse avec Robert Poëty comme ministre de la Sécurité publique. Nous vivons dans le meilleur des mondes.
Non, mais ça serait idéal si tout le monde apprenait ça à l'école, tu sais.
Oui.
Ben, ça devrait pas être réservé juste à la police, là. Encore une fois, hein, ils nous volent tous les trucs intéressants.
Ouais.
Oh mon Dieu! Wow! Ben, ça conclut bien notre émission!
Quand même! Hein?
je voulais remettre de la musique en même temps, mais là, je me suis comme sentie mal à l'aise. Tu sais, je voulais pas.
Ça fait que si jamais Robert Poëty gagne, moi, je dis tournée de shooter.
Oh
parce que. Il reste plus juste à saouler.
Oh mon Dieu! Bon, ben, en tout cas, ben, moi, je suis contente au moins qu'on le sache. Je pense que c'est la moindre des choses. Hein.
Ben, à ce qui paraît, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a dit que a réagi en disant qu'ils allaient changer le contenu du cours.
Ben, ça serait la moindre des choses. Hein. Merci beaucoup, Marie-Ève.
Ben, c'était toujours un plaisir.
Une autre excellente chronique des apatrides anonymes.